Bonjour à ceux que j'ai pas salués tantôt. Mais je voudrais juste refaire un petit recul en arrière et se retrouver avant que Jésus ne meure. Donc nous lirons dans Marc 14, les 11 premiers versets. La fête de Pâques et des pains sans levain venait d'avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par la ruse et le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'ils se trouvaient à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et il s'irritait contre cette femme. Juste une petite référence, 300 deniers. 225 deniers était le salaire d'un soldat romain pour un an. Donc c'est un salaire de un an et demi d'un soldat romain, fait 300 deniers plus ou moins. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Jusqu'ici la lecture, que le Seigneur bénisse sa parole, et que je ne sois simplement que moi, comme je dis d'habitude, un simple haut-parleur pour vous et pour moi aussi. Voilà, on est là, dans cette lecture. Jésus est en fin de ministère. Il vient d'exhorter ses disciples à la vigilance, décrivant certains événements précédant son prochain retour. Et dans le chapitre 14 de Marc, débute par la passion de Jésus. Ce que nous avons lu, c'est le début de la passion de Jésus. Et tout commence, comme vous avez vu, par l'instigation d'un complot. Les 2 premiers versets nous indiquent que le sacrificateur et les scribes cherchent un moyen de l'arrêter et de l'éliminer en le tuant. Celui-là, il nous ennuie, on va liquider. Et ce qui est arrivé, dans les deux derniers versets, ça se concrétise, le complot se concrétise via Judas. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable de le livrer. Le complot, il est là, complètement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Judas va livrer Jésus, comme j'ai dit, sur un plat d'argent. Pardonnez-moi l'expression. Ah, ce disciple n'a que Dieu, D-I-U-E-U, Dieu, l'argent, et n'a Dieu, jeu de mots, que pour la monnaie sonnante et trébuchante. Il ne voit que le pognon, lui. C'est d'ailleurs lui qui tient la bourse, tiens donc. Et c'est pas moi qui le dis. C'est écrit, c'est l'évangéliste Jean qui vient de... qui va le citer. Jésus vient de dénoncer Judas lors d'un repas dans Jean 13, voilà ce qu'il nous a dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela, car quelques-uns pensaient que Judas, comme il avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il commandait de donner quelque chose aux pauvres. C'est lui qui tient l'argent. Donner quelque chose aux pauvres? Ben oui, c'est la fête de Pâques. Il était de coutume de faire l'aumône la veille de la fête de Pâques. Peut-être bonne conscience, mais bon, on faisait quelque chose. On donnait quelque chose aux pauvres. Vous avez remarqué que cette phrase résonne aussi dans le texte que nous avons lu. On aurait pu le vendre pour 300 deniers et le donner aux pauvres. Donner aux pauvres. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Que faire? Que faire devant la pauvreté, devant la mendicité, devant tous les besoins qui nous entourent, devant toutes ces sollicitations, parfois les limites du harcèlement? À qui donner? Que donner? Comment donner? C'est celui qui est à la sortie de délai, ça. Comment? Justement, Jean-Jean a dit, dans le sermon sur la montagne, retranscrit dans Matthieu 5 à 7, on ne s'est pas consulté, voilà ce que Jésus nous dit, 5, 42, donne à celui qui te demande. Beaucoup demandé. Hein. Et un peu plus loin, dans le même évangile, dans Matthieu 14, 15, 18, voilà ce qu'il est dit. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Qu'est-ce qu'il dit ? Donnez-leur vous-même à manger. Et il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il lui dit, apportez-les-moi. Donnez-leur vous-même à manger. Donc on doit faire notre part. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Apportez-les-moi. Mais j'ai que ça. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi. Phrase en français qui est complètement liée, j'ai vu, apportez-les-moi. Donc c'est vraiment qu'un bloc. Mais combien Jésus répète les choses, la même chose. Apportez-les-moi. Venez à moi, vous. Continuez la phrase. Celui qui vient à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Apportez-les-moi. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ? On garde ce manteau pour nous. On doit faire de Jésus le centre, notre point de repère. Toutes nos actions devraient passer par lui. Nous devrions tout remettre entre ses mains. C'est pas très difficile, hein ? Bon, ça je garde, Seigneur. Apportez-les-moi. Juste ce que nous avons, peut-être, apportez-les-moi. Peut-être que 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Ou comme Pierre dans Acte 3 qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai rien, mais je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ. Tout doit passer par Jésus. Tout faire passer par Jésus-Christ, le crucifié, ressuscité. Et c'est ce que notre petite dame, que j'aime bien appeler comme ça, notre petite dame de notre lecture a compris. Son parfum de grand prix. Son parfum de grand prix, oh, qui sème le scandale parmi les disciples. Son plus cher trésor, qui comprend peut-être toutes ses économies, elle le répand sur la tête de Jésus. Apportez-les-moi. Et il nous est dit que le flacon d'albâtre contenait un parfum de nard pur. J'ai quand même été voir ce que c'est, un nard pur. Et pour info, et je sais qu'Alfred Kuhn, dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, le nard est une huile aromatisée faite avec des racines et les feuilles d'une plante qui pousse sur les flancs de l'Himalaya. Imaginez. Elle était importée dans des vases en long col qu'il fallait casser, donc ça, une mesure pour empêcher de mettre autre chose, et que ça montrait vraiment que ça venait de là-bas. Donc c'était quelque chose de très rare et de très cher. Alors ce récit est rapporté aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et fait l'écho d'une autre femme, mais qui est, elle, pécheresse, dans la maison du pharisien. Et alors, on a écho aussi dans Luc 7, qu'elle lave les pieds du Seigneur avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux et qui va finir par oindre le parfum. Vous avez déjà vu cette autre vision de la chose. Mais bon, à la limite, peu importe. Peu importe que nous emportions notre parfum pourvu qu'il honore notre Dieu. Notre adoration est appelée un parfum. Un parfum de bonne odeur. Et dans le chant, nous avons chanté un parfum répandu sur ta tête, alors que notre louange, j'allais dire peu importe de la manière de la porter, soit toujours un parfum agréable et de bonne odeur. Mais qu'est-ce que ça coûte, la louange ? J'ai mis des petits points. Je ne sais pas prier, je ne sais pas louer. J'ai peur de prier ou de louer à haute voix. Je suis trop timide, je ne sais pas quoi dire. J'ai peur d'être ridicule, j'ai peur des réactions des autres. Je n'aime pas les prières parce que j'ai rien à dire. Je n'aime pas parler en public. Vous avez devant vous le plus grand de celui qui a peur de parler en public. Mais bon, revenons à notre femme au parfum du grand prix dans notre récit. Marc ne nous dit rien de sa situation, contrairement à l'autre qui parle de la pécheresse. Alors encore moins, on parle de son état, de son âge, ni de son état civil, rien de ce qui aurait pu justifier son geste. On ne sait pas. Marc la laisse anonyme. Mais dans la lecture de Jean, au chapitre 12, nous rapporte le récit similaire et donne le même détail qui nomme Marie. Marie, la sœur de Lazare, de Marthe et de Lazare. Marie est-elle reconnaissante au Seigneur qui lui a rendu son frère de manière miraculeuse? Certainement, elle n'a pas oublié, je pense. Certainement qu'elle n'a pas oublié ce miracle. Mais parfois, combien d'autres ont connu des libérations, des guérisons ou autres événements miraculeux et se sont détournés du Sauveur, souvent prétendant parfois que les disciples les avaient déçus? Combien se sont éloignés de l'Église, épouse de Christ, parce que déçus des réactions des membres? Combien de fois on dit « Moi, je ne veux plus à l'Église parce qu'il y a un tel, il n'y a pas d'amour. » Qu'avons-nous fait de notre parfum, nous? Notre parfum de sainteté, notre parfum d'accueil, notre parfum de fraternité, notre parfum de communion fraternelle. Que nous coûte notre parfum? Notre parfum qui a le prix de notre orgueil, le prix de notre confort, le prix de notre amour. Quel prix a notre parfum? Cette femme nommée Marie ne réfléchit pas. Elle n'hésite pas, elle casse le vase et donne tout ce qu'elle a de plus précieux. Jésus l'accepte comme une avance sur sa mort et sa sépulture. Parce que lui, il sait. Il sait qu'en passant à Béthanie, il est sur le chemin de Jérusalem, où il sera crucifié plus tard pour notre salut. Mais il sait aussi qu'il ne sera jamais embaumé. Il n'a pas besoin de ce parfum. Puisque son corps ne restera qu'à peine 3 jours dans le tombeau. Je me suis posé la question, le parfum est-il répandu à perte? Certainement, pour le commun des mortels, oui. Pour Judas, scandale. Et quelques autres aussi. Mais pour Jésus. Pour Jésus, ce n'est pas le parfum qui compte. C'est le prix qui l'intéresse. C'est l'intention du geste. Verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Le texte que nous avons lu. Elle a fait une bonne action. Parfois, pour ceux qui nous regardent, travailler pour Jésus, c'est complètement stupide. Qu'est-ce qu'il va faire à l'église tous les dimanches? Qu'est-ce qu'il fait? C'est démesuré. Il part en mission. Mais pour notre Seigneur, c'est une bonne action. Alors, peu importe ce que nous faisons, si nous le faisons au nom du Seigneur et pour sa gloire, ce sera toujours une bonne action. Jésus ajoutera qu'il ne sera pas toujours avec eux en comparaison avec les pauvres. Il revient. Autrement dit, cette femme a choisi le bon moment. Et pendant qu'il en était encore temps. Alors pour nous, nous avons encore, comme j'aime le dire, une année de grâce devant nous. Alors n'hésitons pas à répandre notre parfum avant qu'il ne soit trop tard. Même si le monde nous ridiculise, ou pire, si nous sommes la risée des autres disciples ou des autres églises, continuons, persévérons dans les bonnes actions. Acte 2, 43, qui a été déjà cité plusieurs fois, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il faisait beaucoup de prodiges et de miracles pour les apôtres. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés parce que la crainte s'emparait de chacun et qu'il persévérait dans les prières, la fraction du pain, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, l'expansion de l'Église et l'édification passent par nous, qui avons été au bénéfice de la grâce. Et ce que nous faisons est une portée dans le temps et dans l'éternité. Et Jésus le confirme en parlant à notre femme au parfum. Verset 9 de notre texte, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » L'action de Marie, sœur de Lazare, fait partie en annexe de la bonne nouvelle, partout dans le monde entier. Ah, comme j'aimerais que mon parfum, mes actes, mes gestes, mes sacrifices, mes prédications, peut-être, aient une portée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre espoir. Notre espérance est ailleurs. Mais au fait, c'est ce qui nous est demandé. Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est chez moi et au-delà. Et je me suis arrêté sur une petite phrase que Jésus a dit, importante pour moi, capitale. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Ben mince alors. Elle a répandu une année et demie de parfum. Elle a fait ce qu'elle a pu. Oh, elle a donné un parfum de grand prix, mais elle a fait ce qu'elle a pu. On raconte que lors d'une réunion d'évangélisation en Afrique, au fond de la brousse, là-bas, et pendant la récolte de la collecte, un petit garçon a demandé de mettre le panier par terre, et il s'est mis dedans. Il a tout donné. Ce petit garçon a fait ce qu'il a pu. Et Antoinette, ma femme, qui travaillait dans une boulangerie, recevait un vieux monsieur un feuillet de calendrier. Il était chrétien, tous les jours, il lui donnait le feuillet de calendrier. Ben, elle le prenait avec respect. Bon, hein. Jusqu'au jour où elle a pu lui dire « Ben, je fais partie aussi des chrétiens, je suis devenu chrétien. Enfin, » par un autre moyen, quoi. Par d'autres circonstances. Mais vous devez imaginer la joie de ce monsieur. Un feuillet de calendrier. Il a fait ce qu'il a pu. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un feuillet de calendrier? Mais c'était un des plus purs parfums, puisqu'il était la bonne nouvelle. Alors Marie, la femme de notre récit, a fait ce qu'elle a pu. Elle a tout donné. Et Jésus dira aussi d'elle qu'elle restera dans la mémoire. Vous avez marqué verset 9, je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et je me suis arrêté sur le détail de notre traduction française « en mémoire ». Très peu dans la Bible, il est marqué 4 fois, 4-5 fois, il est marqué « en mémoire ». Faites ceci en mémoire de moi. Ah, ça nous frappe, ça. Ça nous interpelle. Jésus institue la scène en mémoire. Nulle part ailleurs ne sera reprise cette expression. On ne trouvera nulle part. Ce sont les mêmes mots, pour nous en français et en grec, ce n'est pas exactement les mêmes mots. Ça, c'est la traduction. Mais alors, c'est ce souvenir, pour notre récit, c'est la base grecque mnémo, un système mnémotechnique. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pour se rappeler. Donc, elle, on pense à elle en se rappelant. Tandis que ce souvenir, dans le mémorial de la Sainte-Seine, c'est anamnésis. Vous entendez dedans amnésie. Vous entendez évidemment qu'on n'oublie pas. Anam, ça veut dire le contraire. On n'oublie pas. Mais c'est plus dans le sens que c'est enfoui dans notre conscient, dans notre subconscient. La Sainte-Seine est quelque chose que c'est ancré dans notre mémoire. On n'a pas besoin de quelque chose pour nous rappeler ce que c'est. On sait, d'office. Voilà, en mémoire. Alors puissions-nous être conscients que ce que nous faisons doit marquer la mémoire. Mais que ce que Christ a fait pour nous est gravé dans nos mémoires. On n'a pas besoin de se rappeler, c'est gravé sur nous. Alors quoi que nous fassions, quoi que nous disions, faisons-le au nom du Seigneur, si même c'est juste ce qu'on a pu. Tout ce que nous avons à donner, faisons-le d'abord passer par Christ, même si cela nous coûte, mais en Jésus au final. C'est nous qui serons toujours gagnants. Alors pour terminer, juste deux petites illustrations. Pour un concert exceptionnel d'un grand virtuose, on avait annoncé que le maître allait jouer sur un violon Stradivarius. Exceptionnel, de grand prix. Alors le rideau se lève, et le grand artiste commence à jouer avec, évidemment, une dextérité incroyable. Et au terme du morceau, toute la salle est debout et applaudit le virtuose et le violon, évidemment. Et bien le maître dit « silence ». Il déclare « ce violon, c'est un violon qu'on a acheté 10 sous sur une brocante. » Le Stradivarius va seulement arriver maintenant. Alors vous avez compris que, peu importe qu'on soit un simple être humain sans éclat, tant que nous sommes dans les mains de notre maître, il fera des exploits avec nous. C'est lui qui fait l'exploit, c'est pas nous. Le tout, c'est de se mettre entre ses mains. Et puis, ma deuxième illustration, c'est dans le cas où on se donnerait une excuse. Oh, parce qu'on a souffert des aléas de la vie. Oh, non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai souffert de ça. Non, j'ai trop. Non, j'y arrive pas parce que. Et j'ai appris que Django Reinhardt, je ne sais pas si vous en connaissez, vous connaissez Django Reinhardt, hein, le fameux guitariste de jazz manouche, avait perdu l'usage de deux doigts de la main gauche dans l'incendie de sa caravane, l'obligeant à jouer autrement, faisant de sa musique quelque chose d'unique. Il paraît que des gens, ils s'attachent les deux doigts pour essayer de jouer comme lui. Alors, s'il s'était dit, bon, je suis foutu, j'ai plus rien à faire, jamais il ne serait rentré dans nos mémoires. Jamais on l'aurait oublié. Alors, si notre femme, au art de Grand Prix, avait gardé pour elle ce qu'elle avait, elle ne serait peut-être pas si bien connue. Mais avant toute chose, Marie, la sœur de Lazare, elle s'est mise aux pieds du Seigneur. Et elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions être convaincus que de faire simplement ce que nous avons pu est essentiel. Essentiel dans l'œuvre de Dieu et surtout à une portée d'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.